Je vais vous présenter maintenant quelques stratégies inefficaces, voire dangereuses. Concernant la gestion de la peur et de la colère, j'ai régulièrement vu utiliser dans différentes structures des stratégies spécifiques de gestion de ces deux sentiments. Et j'ai retrouvé ces stratégies dans tout type d'organisation, de taille et d'activités très diverses, qu'elles soient privées ou publiques, à but lucratif ou non. Ces stratégies, outre le fait d'être assez répandues, ont la caractéristique commune d'être peu efficaces, voire dangereuses. La première stratégie, c'est une intervention sur les causes de la peur. Quand un manager sent la peur chez ses collaborateurs, il peut l'entretenir. C'est le management par la peur. Et je vous ai dit, un groupe qui a peur peut avoir un fonctionnement stable si la peur est relayée par un système de répression. Alors j'ai identifié deux catégories de peur. Il y a les peurs internes. Pour maintenir un groupe dans la peur, le leader de ce groupe doit disposer d'un appareil et de fonctionnements spécifiques conçus pour entretenir cette peur. C'est la police politique, disparition, exécution sommaire, etc. On trouve parfois des comportements dans certaines organisations qui, d'une façon édulcorée, ressemblent étrangement à certaines pratiques de régime totalitaire. Il y a une autre catégorie de peur, c'est la peur liée à l'environnement. Et dans ce cas, le leader tente d'assouplir le comportement de ses collaborateurs en mettant en avant des risques réels ou imaginaires liés à l'environnement, récession économique, délocalisation, chômage, etc. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des ingrédients d'un système totalitaire. J'ai identifié quatre éléments qui, lorsqu'ils sont présents simultanément, me permettent de définir un système totalitaire. Le premier est le leader a un pouvoir de distribuer des sanctions positives et négatives irrévocables. Le deuxième est les critères avec lesquels il apprécie ces derniers sont tenus secrets, imprécis ou fluctuants. Et dans ce dernier cas, les collaborateurs n'ont aucune information leur permettant d'anticiper ou de connaître ces fluctuations de critères d'appréciation. Troisième élément, lorsqu'un collaborateur est sanctionné, le reste de l'équipe n'est pas informé des motifs de la sanction. Quatrième élément, concernant les récompenses individuelles, primes, promotions, etc., le fonctionnement est le même, à savoir pas d'informations sur les raisons de cette récompense au reste de l'équipe. Lorsque ces quatre éléments sont présents de façon simultanée et habituelle, il s'agit d'une organisation qui fonctionne selon un principe que j'appelle le fait du prince. Donc, première stratégie possible face à la peur, c'est l'entretenir. La deuxième, c'est tenter de la faire décroître. Lorsqu'un leader perçoit une peur importante chez ses collaborateurs, il peut aussi se donner comme objectif de les rassurer. Et cet objectif paraît tout à fait louable. Par contre, il est important que la stratégie utilisée soit cohérente. S'adresser de façon paternelle à ses employés en leur disant « Vous n'avez rien à craindre, je suis là, je vous rassure, je contrôle la situation » est un fonctionnement inadapté. En effet, je n'ai pas le pouvoir de rassurer une personne. La seule chose que je puisse faire est de lui donner des informations lui permettant de se rassurer elle-même. Donc, des collaborateurs inquiets n'ont pas besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être informés. Voyons maintenant les interventions sur les causes de la colère. Il y a une première option qui est tenter d'orienter la colère. Il s'agit pour le manager de tenter de canaliser la colère de ses troupes et de l'orienter vers une cible qu'il a choisie. C'est le principe du bouc émissaire. Il y a deux catégories de cibles possibles. Les cibles externes. C'est donc une cible extérieure à la structure, par exemple le gouvernement, l'Europe, les concurrents, la mondialisation. Et quelque chose qu'on a entendu ces dernières années assez fréquemment, ah, s'il n'y avait pas les 35 heures. Autre type de cible, les cibles externes. Il s'agit de personnes ou de groupes faisant partie de la structure, par exemple le nouveau DRH, le service expédition. Un autre exemple, dans le cadre de fusion ou de rachat entre deux structures. Chacune des structures regroupées peut servir de bouc émissaire pour l'autre. Il s'agit pour le leader de tenter d'utiliser à son profit la très grande énergie contenue dans la colère. Et il est vrai que cette énergie a des atouts. Le premier atout, c'est qu'elle est puissante. c'est comme un torrent de montagne. La deuxième, c'est qu'elle est économique. Quand un groupe est très en colère, pour le conduire à l'action, il n'est pas besoin de fortes rémunérations, d'avantages complémentaires et de bonnes conditions de travail. Quand on est en guerre, on ne se préoccupe pas des 35 heures. Troisième avantage, elle est rassurante. En effet, elle permet de faire l'économie, tant pour le leader que pour ses collaborateurs, de la moindre remise en question de leur fonctionnement, puisque la cause de tous leurs problèmes est clairement identifiée et qu'elle est extérieure à eux. C'est ce qu'en analyse transactionnelle on appelle un jeu psychologique, qui en l'occurrence s'appelle le jeu sans toi. Ah, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je serais heureux. Par contre, cette stratégie a un inconvénient majeur. Il s'agit de canaliser une énergie qui est difficile à maîtriser, donc très dangereuse. Et celui qui veut utiliser cette force est comme la personne qui tient un tigre par la queue. Il ne doit jamais lâcher la queue du tigre. Et je donne un exemple. Si vous allez à Paris visiter la conciergerie, vous pourrez voir une salle où pendant la Révolution les condamnés étaient détenus avant d'être exécutés. Et en mémoire de ces personnes, le nom de chacune d'entre elles a été écrit sur les murs de cette salle. Il est frappant de voir que de nombreux guillotineurs ont été à un moment guillotinés. Parce qu'à un moment, ils ont lâché la queue du tigre.